Salut Marc, salut Smart, salut peuple de catch-up, bienvenue dans votre podcast qui respire, qui soigne, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau, du slip et du masque. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team catch-up, tous les shows de la WWE. Cette semaine, aujourd'hui, on se retrouve pour vous décrypter le monde merveilleux du show bleu. Bienvenue à Friday Night SmackDown, le 1165e du nom. Ça se passe à Chicago, à Rosemont exactement, dans l'Illinois, USA, à la Allstate Arena. Au commentaire, Michael Cole, Pat McAfee. Vous m'avez peut-être identifié, je suis votre dinosaure masqué, je suis votre Luchasaurus des podcasts, je suis votre tonton Chris ou tonton Catch-up. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, l'honneur, que devrais-je dire, de rentrer dans l'histoire pour une triple frite, pour un SmackDown historique. Et cette review va l'être tout autant, puisque on va accueillir deux chroniqueurs que vous connaissez très bien. On va commencer par un ancien de la maison, par un taulier, par un pilier de comptoir, notre ignoble Ringside. Salut Ringside.
Salut tonton, salut à tous. Très heureux d'être là pour faire l'histoire avec toi.
Ah, voilà, ça fait toujours plaisir. Et le troisième larron pour cette triple frite, c'est notre archange Géliel. Salut Géliel.
Salut tonton, salut Ringside et salut à tous.
Ah, ça fait plaisir. Ah, peuple de Catch-up, vous êtes gâtés. Je sais que la triple frite, c'est LE combo qui marche à Catch-up le plus. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut. Mettez-vous comme il vous faut. On y va, messieurs, on est parti. Chicago a l'air ambiancé, hein. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais globalement, le public semble plutôt bien présent, bien chaud. On va avoir d'abord un petit récap un peu sur l'angle qu'il y a eu entre Sami Zayn et Brock Lesnar de la semaine dernière. Alors, un petit mot là-dessus, puisque je crois que c'était vous deux qui avez récap le SmackDown de la semaine dernière, Ringside.
Oui, avec Billy Brock et sa salopette.
Oui, tout à fait, ouais. Avec le fameux l'angle avec le Sami qui... Avec le Brock qui dit à Sami, ouais, allez, viens, on va aller chasser l'élan et tout. Et l'autre qui dit, ouais, je suis vegan, quoi.
Entre autres, ouais.
Ah, c'était une belle réussite de ces dernières semaines, ça, ce joli segment entre Sami Zayn et Brock Lesnar.
Ouais, ouais, exactement. Ouais. C'était assez drôle. Moi, j'ai trouvé ça assez fantastique. Et vraiment, l'interaction avec Sami Zayn. Alors, avec la signature de Kevin Owens cette semaine, il ne saurait tarder. On subodore de plus en plus fort la signature prochaine, le renouvellement de Sami Zayn, hein, mes amis. Hein.
Je crois avoir lu que c'était fait.
Mais ouais, moi aussi.
Oh, des infos en direct, allez-y, les amis, expliquez-moi tout. Des infos en direct sur la prolongation de contrat de Sami Zayn.
Ouais, bah, je crois que ça a été signé la semaine dernière. Hein. Je sais pas si je dis des bêtises.
Est-ce que je confonds pas avec Kevin Owens?
Ah bah, pardon. Kevin Owens.
Kevin Owens, c'est sûr. Sami Zayn, c'est sûr aussi. Hein. Je sais plus. Je suis sur le Wrestling Observer, mais c'est fait aussi Sami Zayn. Hein.
C'est fait.
C'est bouclé.
Bah, c'est une bonne nouvelle. Alors là, franchement.
Oui, on aurait du mal à s'en passer des deux là. Quand même.
Vraiment content d'avoir les deux. Qui est pour la WWE. Tac, SmackDown part du catch en fait, hein, véritablement, puisqu'on va avoir un tag team match chez les filles. On va avoir la championne Charlotte Flair accompagnée de Shotzi Blackheart. Alors j'ai un peu découvert, pourtant je suis SmackDown, que Shotzi Blackheart était passée du côté obscur de la force. On en reparlera. Sasha Banks dans un cosplay magnifique de Spider-Man, où elle a fait un tabac, hein, Sasha Banks, on va le dire, cette semaine. Elle a été à la première, je sais plus où, à Los Angeles. Il y en a eu que pour elle. Elle est passée partout, sur tous les réseaux sociaux. Sa robe a fait un tabac. Ses jambes aussi. Et elle est accompagnée avec Tony Storm, qui elle est beaucoup moins, enfin qui fait beaucoup moins un tabac certainement, mais qui est énorme. C'est normal, c'est une petite jeune qui n'en veut et qui arrive dans le main roster. On va avoir un vrai gros match de tag team de filles, puisque les amis, on va avoir un match quasiment de 19 minutes. Et finalement, on sent que Shotzi et Tony, qui sont l'une en face de l'autre, sont assez heureuses de partager le ring avec les deux boss, quoi, avec les deux patronnes du business, en particulier à SmackDown, mais j'ai envie de dire sur l'ensemble de la division féminine. Voilà, ça fait partie, c'est les Four Horsewomen, donc c'est quelque chose, quoi. Elles vont avoir leur moment Blackheart et Storm, hein. Elles vont pouvoir s'en donner joyeusement, mais on sent, alors vous allez me dire ce que vous en avez pensé, mais moi, on sent la différence en fait une fois que Charlotte et Sasha rentrent dans le ring. C'est pas le même délire. Alors Sasha, là, elle est face. La semaine dernière, c'était un petit peu mitigé. Là, cette semaine, moi, j'ai trouvé que le public était carrément à fond avec Sasha, quoi. Mais alors, un truc de dingue, quoi. Pat McAfee, il en pouvait plus de Sasha Banks. Vraiment, c'était du coup, ça mettait une ambiance au match assez sympa. Finalement, donc Flair et Sasha Banks vont donc avoir droit à leur face-off et ça va s'envoyer comme il faut, malgré que Charlotte tente et continue les coups de vis, continue les taunts envers le public. L'entente avec Shotzi est plutôt pas trop mal, quoi. Shotzi me paraît assez énervé. Alors, vraiment, encore une fois, moi, comme je tombais un peu des nues qu'elle soit heel, j'étais un peu surpris sur le coup de l'attitude de Shotzi Blackheart. Mais bon, écoute, c'est parti, allez, allons-y, quoi. Tony Storm va essayer un peu de s'envoyer, va tourner pas mal de choses, elle va nous faire pas mal de prise de judo, pardon, pour tenter, d'ailleurs, sur un nearfall de 2, pour envoyer tout le monde au sol. Finalement, elle va tenter, il va y avoir plusieurs de tags rapides entre les deux filles. À un moment, au bout de 10-11 minutes, je commençais à regarder, je me dis, tiens, c'est dingue, je me rappelais pas d'un tag team match entre des filles qui durait aussi longtemps. Et effectivement, ouais, c'est bien ce qui va se passer. Alors, Sasha, elle va nous faire un magnifique truc, là, elle va nous faire une espèce de backbreaker en bascule entre les cordes, là, assez violent. Tony et Shotzi vont se retrouver finalement toutes les deux ensemble. Et alors là, ça va envoyer pas mal. Hein. Atomic Drop, Manhattan Drop, Dropkick, coup d'avant-bras, la totale. Un petit slam refusé. Hop, 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 tac aveugle avec Charlotte. Et là, Charlotte rentre. Et là, ça va péter du big boot, de la souplex. Storm et Flair vont se retrouver par terre. Tony va essayer de l'éloigner d'un coup de pied. Ça va continuer à s'envoyer. Ça va se dégager du tablier. Elles vont se balancer des trucs. Hein, je sais même plus ce qu'elles vont se balancer, quoi. Mais il y a pas une histoire où elles se balancent un truc qui ramasse sur la table des commentateurs. Oh, je sais plus, quoi. Enfin bref. Bref. Charlotte va réussir à se dégager de Banks, mais ça va pas suffire parce que Storm pendant ce temps va monter sur le turnbuckle. Le crossbody va tomber pour un point à la victoire. Non, cherchez finish. Non, ça va pas marcher. Flair va réussir à bloquer Tony Storm. Va la pousser dans le turnbuckle. Va nous faire un sauper. Les genoux levés, contrés par Tony Storm. Finalement, Sasha Banks et Tony Storm vont gagner Alors, j'ai découvert cette prise. Mon bon ringside, toi, le spécialiste, tu vas m'expliquer ce que c'est qu'un bridging O'Connor roll, parce que c'est la première fois que j'entendais le nom de cette prise. Et en l'occurrence, c'est la prise que va utiliser Storm sur Charlotte Flair. Mais ça va pas marcher, finalement. Charlotte Flair. Si, ça va marcher, excusez-moi. Tony Storm et Sasha Banks, au bout du bout, vont 1, 2, 3, gagner le combat sous une grosse pop du public. Charlotte Flair et Shotzi évacuent le public. Et c'est Sasha Banks qui va lever le bras à Tony Storm, qui essaie effectivement à porter le pin, mais qui va vraiment mettre over, moi j'ai trouvé, Tony Storm, comme ça avait peut-être jamais été le cas à SmackDown depuis son arrivée dans le show bleu. Voilà, c'était un peu long. Un play-by-play un peu compliqué parce qu'il y en a eu un peu de partout. Puis on va avoir des précisions avec nos deux chroniqueurs là. Donc allons-y. Messieurs, on va commencer avec l'Archange, le GLIL, ce tag team féminin pour ouvrir ce SmackDown.
Écoute, moi j'ai trouvé ça vachement bien. Je trouvais qu'en plus les alignements se passaient bien. C'est-à-dire qu'étonnamment, comme tu le disais, alors moi Shotzi, je ne l'avais jamais trop vue en face. Hein. Elle avait plutôt eu des comportements très énervés de heel. Alors après, l'adversité n'était pas forcément pour l'aider à se positionner en heel, je suis d'accord avec toi. Mais là, avec Charlotte Flair, ça passait vraiment tout seul, son côté énervé et en heel. Bank Storm, ça allait bien aussi. Du coup, ça a envoyé quand même pas mal du lourd. Il y a eu quelques petits trucs un peu botchés, notamment le moonsault avec le following moonsault de Charlotte là, sur la fin. Alors, ce qu'elle fait, c'est fort. Elle fait un moonsault, elle enchaîne sur un autre moonsault. Seulement, c'est vachement dépendant de la personne qui est avec elle. Et j'ai trouvé qu'il était un poil botché la fin avec Tony Storm. Du coup, c'était un peu dommage, mais ça rend bien. Vraiment sympa. C'est parti hors ring, in ring, c'est revenu, c'est parti à gauche, à droite. Tony Storm a été plutôt efficace, puisque c'est même elle qui fait le pin donc pour la fin. Moi, j'ai assez aimé. La fin est un peu trop bisounours avec Tony Storm qui n'a pas posé son petit roaco comme Alia, mais qui avait quand même les petites larmes aux yeux avec un grand sourire un peu béat qui était tenu par la main par Sasha Banks. Il faut qu'elle fasse gaffe. Enfin, il y a moyen de montrer qu'on est content sans aller non plus dans le... Voilà, quoi.
Sinon, à chaque fois, à chaque victoire.
Ouais, je trouve que c'est un peu too much, quoi. Mais sinon, Shotzi et Flair, il y a certainement un truc sympa à faire parce que l'alchimie était. Banks, Storm un peu moins, même si ça a marché. En tout cas, un opener de 20 minutes en tag team avec les filles, et puis du lourd quand même, avec aucune qui a été vraiment très très en dessous. Moi j'ai bien aimé. Voilà. Donc content de cet opener, tonton.
Alors, bon ringside.
Ouais, bah ouais, gros opener pour les filles avec pas mal de talent quand même entre les cornes, hein, entre la championne. L'immense Sasha Banks, c'est son cosplay de Spider-Man là. Je crois que c'est pas la première fois qu'elle met ce costume là. En tout cas, ça a fait mouche. C'était super populaire. Les deux nouvelles, la Toni Storm et Shotzi, bah, c'est peut-être celles qui ont le plus de talent, je trouve, dans les nouvelles arrivées. Alors, Shotzi, si mes souvenirs sont bons, elle tourne heel juste après le check-up là, ou la draft. Elle a un match en équipe, je crois, où elle est avec Sasha Banks. Ou alors elle a une rivalité avec Charlotte où elle est face et elle perd le match à cause d'une intervention de Sasha Banks et du coup elle se retourne contre Sasha Banks et
depuis oui,
elle
est heel. C'est pour ça qu'au au Survivor Series elle avait cherché les crosses à Sasha Banks pendant tout l'Elimination match quoi.
Voilà, bah, Shotzi, elle a le look. Il y a encore un peu de travail dans le ring, surtout pour des multi-woman tag là où
Toni Storm aussi. Hein.
Où on sent qu'il manque un peu de. Et c'est surtout une histoire de timing, j'ai l'impression. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup l'habitude de faire des matchs à plusieurs, comme ça, hein, parce que quand elles sont dans l'indie, généralement, c'est des matchs un contre un. Alors, il y en a eu un petit peu à NXT, je suppose qu'elles ont dû. Mais même Toni Storm, elle n'était pas beaucoup à NXT non plus. Donc, voilà, je pense qu'elle manque encore un peu de pratique sur ce type de match. Hein. Dans les interviews, les catcheuses et hein, les catcheurs expliquent souvent que c'est pas ce qu'ils préfèrent, hein, faire les multitags et les trucs comme ça. Mais bon, on voit déjà qu'elles ont un bon niveau pour ce qui est d'exécuter les prises et tout ça. Et les prises de risque sont là. C'est autre chose qu'une Dana Brooke ou que les Iconics, quoi, ou qu'une Carmella. Quoi, hein. C'est vraiment des catcheuses, les deux. Hein. Shotzi, elle a de toute façon son look, son apparence, donc ça fonctionne à chaque fois. Et Toni Storm, elle m'épate hein, depuis qu'elle est arrivée. Elle est très bonne au micro. Voilà, va juste falloir qu'elle adapte un petit peu son style au mode WWE. Après, elles sont toutes les deux un peu plus petites que les main eventeuses. Donc ça peut toujours poser un petit peu problème. Mais on voit qu'elles peuvent faire des bonnes choses et puis on voit qu'on peut compter sur elles pour un opener qui dure 20 minutes. Ça a emmené la foule de Chicago. Il y a quand même eu un chant CM Punk, je crois, à un moment donné, mais c'était peut-être pas dans ce match. Ouais. C'était pendant ce match-là, hein, je sais plus.
Je sais pas, mais je l'ai entendu, ouais, effectivement.
Mais bon, après, on est à Chicago.
C'était pendant le segment avec Matt Capos et Corbin.
Ah oui, bon, c'était mérité alors à ce moment-là.
Ouais.
Voilà, non, mais c'est pour un opener, c'est super cool. Voilà, on voit qu'elles se donnent quand même les filles et c'est remarquable quand même.
Ouais, bah écoute, je suis assez d'accord avec votre analyse commune. Clairement.
La prise de finish dont tu parlais.
Ah oui, oui.
C'est un roll-up modifié, hein.
Mais...
Ce sort ce nom là, mais.
J'ai adoré le nom dans Fightful Wrestling. J'ai trouvé ça incroyable. J'ai dit non mais sérieux, il donne un nom comme ça à un roll-up quoi.
Ouais. Parce que c'est pas à moitié botché.
C'est la classe quoi. Bridging O'Connor Roll. Ah c'est la classe.
Le célèbre catcher O'Connor.
L'utiliser, c'est l'adopter quoi. Donc voilà. Maintenant voilà quoi. Je vais dorénavant le Bridging O'Connor Roll. Ça va être mon nouveau gimmick ça. Bon, en tout cas, je vous rejoins sur à peu près tout. Je vais pas m'éterniser. J'ai trouvé que c'était un très bon match. Je trouvais que c'était sympa pour Shotzi et Toni de partager le ring comme ça avec les deux patronnes un peu. Je sais pas, c'est un petit peu comme si Dominic Mysterio et Austin Theory partageaient le ring avec Randy Orton et John Cena, ouais, quoi. Voilà, c'était exactement ça. Donc c'était une espèce de baptême du feu pour les deux nanas. Et du coup, ça nous a donné un beau match. Ça botche un peu. Shotzi comme Toni d'ailleurs. Hein. Et Sacha, comme elle a un catch au risque, et bah par moment, des fois, ça botche un petit peu. Mais Sacha, on le comprend plus facilement parce que Sacha, elle tente des trucs. Je pense franchement que c'est certainement l'une de celles. Moi, elle me fait penser à Daniel Bryan en fait, Sacha Banks par moment, quoi. Pour,
Ouais.
sur
Ah,
le
ça, c'est
scénario.
vrai que ça m'a toujours fait penser à Rey Mysterio, moi.
Ah, Rey Mysterio, ah ouais, pas mal, ouais, le rapprochement est pas mal aussi, ouais, mais je trouve que sur plein d'aspects, elle a un gros moveset, un gros arsenal, elle s'adapte selon les adversaires, et je pense que c'est super bien pour les deux jeunes d'avoir pu bosser avec une Sasha Banks et puis une Charlotte, bon, Charlotte, là, c'est la patronne, quoi, y a rien d'autre à dire, hein. Donc de toute façon, elle, on cherche pas à savoir si elle a été performante dans le ring ou pas, puisqu'elle l'est de toute façon. Donc, effectivement, un match de 20 minutes pour les femmes en ouverture. Bravo, mesdames. Mission réussie. Allez, on retrouve backstage où on va avoir un espèce de gang de babyface là, qui est en train de chanter pour le King Xavier Woods avec en première ligne un magnifique chevalier blanc. On l'appelle le chevalier blanc. Nakamura, le gros feignant. Oh là là là. Donc, Nakamura, ça sera à peu près, ça sera même d'ailleurs la seule chose qu'il fera hein, de sa soirée, hein, Nakamura. Il avait quand même le titre intercontinental autour des hanches, hein, mais donc il était là pour acclamer le King Xavier Woods, qui va les remercier, bien évidemment, qui va leur tendre la main pour embrasser son auguste mimine. Là-dessus, c'est Reeboks qui va lui faire un bisou, mais avant que ça puisse commencer, les Ouzos vont arriver. Ah, remettre un peu l'église au milieu du village, quoi, leur dire bah, c'est bon que Woods là il a l'air vraiment d'une blague, quoi, et que Xavier leur rappelle quand même la raclée royale qu'il leur a infligée la semaine dernière et qu'il va les battre à nouveau ce soir, et qu'à Day One ils deviendront les nouveaux Tag Team Champions. Alors ça serait très très fort, hein, parce que ça serait le 12e titre pour les New Day, quand on sait que les Ouzos sont au 7e titre de leur côté. Donc là on a les deux plus grosses équipes, hein, messieurs, des 12 dernières années, des 10 dernières années, on va dire, à la WWE. Et bah, c'est reparti pour une rivalité à nouveau. On va finir la fin d'année dans une rivalité. New Day, Ouzo. Ringside?
Ah ben, écoute, moi ça me va. Hein. C'est bon, c'est du déjà vu, du déjà revu, mais pour l'instant, je vois pas d'équipe qui sont susceptibles de leur arriver à la cheville. Alors ouais, il faudra peut-être donner un jour un petit peu plus d'exposition à l'Alpha Academy, peut-être, ou essayer de concrétiser le truc avec les
Les
Street
profits.
Profits, mais bon, tout ça se passe à Raw. Là, il n'y a pas grand monde dans la division tag team de SD. Après, c'est les Viking Raiders. Moi, je pense qu'ils ont fait leur temps quand même. Je vois pas trop qu'est-ce qu'on peut en faire, sauf si on essaye de bouger un peu la gimmick. Et puis le reste, ben, on va le voir après. Il y a Jinder Mahal et Shanky. Ça, je vois pas trop ce qu'on peut en faire. Donc autant donner du temps d'antenne aux deux meilleures équipes, hein, on aura un match dans la soirée, on va vite voir ce que ça donne.
On va en reparler un peu plus tard, mais Géliel, toi, pareil, quoi, tu valides cette fin d'année de Noël là, cette
Ah
période de
bah,
Noël avec une petite rivalité Ouzo New Day?
bah,
Pas mal.
clairement, parce que on sait qu'in ring on va se faire plaisir, quoi. Et en fait, le problème, c'est que s'ils ont autant de titres, ça c'est en creux, ça rappelle aussi la vacuité du reste du roster tag team, alors que ce soit SmackDown ou pas, parce que de toute manière, ça il y a eu du draft, mais ils ont du mal à construire des vraies équipes tag team qui valent la peine. Ils en ont construit deux, trois, ça suit pas, puis après ils les cassent. Des fois sans raison, donc ils ont du mal, quoi. Ils ont vraiment du mal, quoi. Et du coup, moi ce que je trouve dommage en plus, c'est que l'écart se creuse, quoi, entre des New Day, des Usos qui se connaissent
Ouais,
par
l'écart se
cœur,
creuse.
et par rapport à des nouvelles équipes qui ont besoin de travailler encore, bah, c'est dur. Et quand tu les fais finalement affronter les Usos ou les New Day, bah, tu fais ah, putain, les gars, ils sont nuls en fait. C'est pas qu'ils sont nuls, c'est qu'ils ont juste 10 ans de retard d'entraînement ou de match derrière eux, quoi, en fait. Et c'est compliqué, je trouve ça compliqué.
Au
Donc content.
backstage, oui, pardon.
Pardon. Non. Donc je suis content qu'on ait ça en dessert ou en entrée, hein, je sais pas, on verra comment. Hein.
On
Pour
va
Noël.
en reparler tout à l'heure, de toute façon. Dernier petit segment backstage avant de retourner entre les cordes. On aura Natalia qui va être interviewée après avoir regardé un peu le récap de la semaine dernière avec ce qui lui est arrivé. Elle a eu quelques bricoles avec Zayali qui a essayé de lui décrocher la mâchoire à coups de pompe. Et donc, du coup, elle n'a pas aimé. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous parler, Natalia? Elle va nous parler de la legacy, elle va nous parler de son héritage, que c'est elle qui a le plus de matchs dans l'histoire féminine de la WWE dans les pay-per-view. Elle va un peu botcher d'ailleurs à ce moment-là, parce que elle va se botcher sur le 68 qu'elle va pas réussir à dire et que du coup, elle va. Hop, elle va zapper. En l'occurrence, c'était donc 68 matchs qu'elle devait dire dans sa promo normalement, mais elle l'a loupé. Et elle va se moquer un petit peu de Xayali qui a eu l'audace de l'attaquer et de se dire une protectrice. Protectrice, elle va lui péter la gueule, ouais. Donc pas ce soir à SmackDown parce que Xayali, elle est pas là ce soir. Mais Natalia, ça n'empêche pas d'être la meilleure de tous les temps. Donc Bah écoutez, je pense que là c'est assez facile. Tout simplement, Xayah est toute fraîche arrivée dans le main roster, va être lancée contre une vétéran, en l'occurrence Natalia, pour sa première feud. C'est à peu près ce qui va se passer, GGL.
Oui, ouais, c'est ce qu'on sent. Après, c'est la première, on verra ce que ça donne. En face, il y a une workeuse vétéran, voilà, ça peut pas. Enfin, je pense qu'ils ont maximisé les chances pour que ça rate pas, quoi. Voilà, il y a peu de chances que ça botche, il y a peu de chances que ça merdouille. Alors, ça va peut-être pas être génial, mais en tout cas, voilà, ça fera une entrée en matière correcte pour Xayah Li, quoi.
Faute de mid-card, de toute façon, faute de mid-card féminine, mon bon ringside.
Ouais, il faut y aller doucement avec Xayah Li, de toute façon. Natalia, c'est l'adversaire parfait, je pense. Maintenant, j'espère juste qu'ils vont la construire un peu fort, Xayah Li, parce qu'avec tout l'habillage qu'ils ont fait autour, les pouvoirs magiques et tout ça, faut qu'elle soit bookée comme costaud. Si elle commence par se prendre des hits assez longs face à Natalia, j'ai peur que au niveau du ça douche un peu l'intérêt du public. Donc attention quand même. C'est bien de l'envoyer contre une vétéran comme ça, mais il faudrait quand même qu'elle s'impose face à Natalia, qu'elle l'utilise un petit peu comme marchepied, comme paillasson. Faut pas avoir peur de faire perdre Natalia de manière expéditive, parce que ils font jamais plus rien de nouveau avec Natalia. Je pense qu'elle a fait aussi le gros de sa carrière. Maintenant, elle est là pour mettre en avant les nouvelles, quoi.
Je rejoins complètement ton expertise. C'est à peu près comme ça que je l'imagine. J'aurais même limite aimé que Xayah Li débarque en heel. Ils ont fait le choix pour le marché chinois. Hein. Là, je te l'annonce de toute façon, hein, parce que c'est annoncé en grande pompe. C'est justement une fierté pour la WWE de présenter Xayah Li comme une babyface à SmackDown et tout ça. Voilà, tu vois, on va chercher un peu du ratings à Pékin.
Qu'elle n'avait pas tapé sur un sharpshooter la semaine
non,
prochaine.
Non, il n'en est pas question. Mais moi, je trouve que c'est parfait. C'est une rivalité de mid-card pour commencer avec une workeuse chevronnée. Et c'est une bonne chose. Donc, écoute, on va voir la suite. Allez, on aura un petit Raw Rebound, hein, parce que dorénavant, ça se passe à Raw, d'ailleurs, de l'autre côté, avec le SmackDown, je ne sais plus quoi. Donc, on a un récap de Raw. Et derrière, on en a parlé un tout petit chouille tout à l'heure, c'est la Tag Team Division masculine cette fois-ci, et deux équipes que moi, alors là, j'avais carrément oublié qu'ils étaient à SmackDown, parce qu'en fait, je vous l'avoue, tout de suite, avant même de parler de quoi que ce soit, ça a été ma première réaction, ça a été « Ah, ils sont à SmackDown, ces quatre-là, ah mais ouais
!» Moi, je me demandais s'ils n'avaient pas fait partie de la charrette, pour te dire, j'étais encore au niveau d'après. Moi.
Ah ouais, toi, t'étais passé au niveau supérieur, effectivement, quoi. Ouh, j'aimerais pas avoir GLL en patron des ressources humaines. on va avoir donc Viking Raiders en babyface, hein, et Jinder Mahal et Shanky qui ont donc laissé leur ami Veerman. Alors je vous recommande d'aller écouter notre review de Monday Night Raw, puisque nous avons fait un petit chapitre Veerman qui, ma foi, était assez sympathique avec le patron, et je vous recommande d'aller écouter ça. En attendant, écoutez les amis, ils vont nous donner un petit match de 5 minutes, un petit match tag team qui mange pas de pain. Eric va taper Mahal, Shanky va taper Ivar va taper Mahal, Eric va taper Shanky, hein, c'est comme ça que ça va se passer. Et puis Jinder, il va même mettre un gros coup de genou à un moment, ça va pas bien se passer, il va pas être content, et Shanky va rentrer. Et alors Shanky, cet homme est long, c'est-à-dire long dans le sens basket du terme, quoi. Il a des bras mais immenses, avec des grosses paluches, et il va taper Eric très très fort à un grand coup de poing, et moi j'avais mal en fait pour Eric. Et il va lui mettre un lariat que moi non plus j'aurais pas aimé prendre, en fait.
2m16, hein, Shanky, pour rappel.
2m16, Shanky, ah ouais, il fait oh quand même, la vache. Je me disais qu'il était très très grand, hein, mais j'arrivais pas à vraiment parce que Jinder Mahal est grand aussi, quoi.
C'est pour ça. En fait, je suis allé voir parce que Jinder Mahal était déjà grand, il fait 1m96 et l'autre faisait 1m96, Jinder Mahal.
Ouais, c'est clair, ouais. Et du coup, ça va être assez équilibré, hein. Les Viking Raiders vont avoir aussi leur passage, mais les Hills s'en laissent pas compter. Shanky va avoir une entrée vraiment importante, quoi. Et puis finalement les guerriers vikings là vont réussir à avoir le dernier mot. Eric va réussir à placer son genou. Ils vont faire une petite dédicace à Rikishi au passage. Finalement, Ivar va monter sur le turnbuckle. 747 splash d'Ivar sur Shanky. Victoire des babyface. Mon bon Ringside, donc j'ai eu la sensation que tu as eu la même sensation que moi. Tu t'es dit, ah, ils sont à SmackDown, ceux-là.
Ouais, c'était la redécouverte des Viking Raiders. Et puis en plus, je crois qu'ils lâchent l'arrivée des Viking Raiders. Et seulement après, ils mettent le récap d'Euro. Et après, il y a la pub. Et après, on revient sur les Viking Raiders.
Et on n'a même pas, pas l'entrée des Indiens.
Et on n'a pas encore l'entrée des Indiens. Les Indiens, ils arrivent après encore.
Ouais.
Donc c'était super long avant que le match commence. Bon, après, le match n'était pas phénoménal non plus. Moi, j'aime pas du tout Shanky. Il a une tête qui ne me revient pas. Donc j'ai vraiment pas du tout été passionné par ce match. C'est bien quand même qu'il y ait une victoire pour les Viking Raiders. Après voir la suite, s'ils vont faire quelque chose de ces gens-là ou si ça va juste traîner en fond de carte comme c'est le cas là. Il faut des passages comme ça dans l'émission, mais il y a aucun des quatre pour qui je vois un grand avenir. J'ai vraiment du mal à m'enthousiasmer pour ce genre de choses.
Les deux Viking Raiders, j'ai du mal à partir là-dessus. Je trouve que Jinder Mahal peut faire beaucoup plus en vrai méchant, en vrai, il a le talent pour faire plus, il est sous-utilisé. Shanky, je suis pas encore convaincu, ça fait partie des grands machins. Alors il est un peu plus mobile qu'un Homos, qui pour moi est... correspond à pas grand chose, même si je n'irais pas lui dire en face, évidemment. Il ne m'entendrait pas de toute manière de là où je lui dirais. Mais en tout cas, je suis pas convaincu. Je trouve que le truc est de, n'apporte rien, n'amène rien, à part effectivement nous rappeler qu'il y a ces quatre-là qui sont dans SmackDown. Et puis je regrette que Jinder Mahal, qui je pense peut faire plus, soit sous-utilisé comme ça. Voilà.
Ok. Là on est dans la mid card, low card de la tag team division, quoi. Quand on en est arrivé à un point où on se rappelle même pas que les mecs sont dans ce roster là, c'est que ça va pas bien pour eux, quoi.
SmackDown a un peu souffert de la draft, quand même. Du roster. Hein. Ils ont les top main eventers, le top guy, mais alors le reste c'est un petit peu délicat quand même.
Ouais, c'est un peu plus compliqué effectivement. Ouais. Donc un match oubliable. Allez, on aura un petit segment backstage pour nous rappeler ce qui s'était passé la semaine dernière avec Drew McIntyre qui avait enfoncé son épée en travers du bureau d'Adam Pearce et Happy Corbin et Madcap Moss avaient volé le bureau. Du coup, ils sont à nouveau avec le bureau en direct live à la télévision américaine avec toujours l'épée coincée dedans. On va voir ce que ça va donner pour la suite. En attendant, il va y avoir juste un petit switch parce que avant on va avoir Paul Heyman qui va être là pour ouvrir la porte d'une bagnole en espérant saluer son chef de tribu. Mais manque de chance, c'est Brock Lesnar, notre ami canadien, qui en sort. Et du coup, Paul, il admet à Brock qu'il s'attendait plutôt à Roman, quoi. Et Brock lui souhaite juste un truc un peu good luck avec une grosse une tronche de Paul Heyman, pas possible, quoi. La suite des événements. Pour le main event, s'annonce assez velu. Allez, on revient au Happy Talk, puisque c'est donc bien le cas. Happy Corbin et Madcap Moss sont là pour nous accueillir. Le bureau, avec l'épée. Ouais, les gars, ouais, je sais, c'est une catastrophe. Corbin, il nous dit qu'il est heureux cette semaine, que l'épée, l'épée de Drew McIntyre, c'est quelque chose de très cher. C'est une espèce de porte-drapeau. Alors, c'est là, les fameux chants CM Punk vont commencer à s'élever, parce que ça va durer pendant... J'ai regardé, ça a duré 4 minutes consécutives dans lesquelles ils parlent.
C'est long.
Ils font des jokes dont tout le monde se fout, le public s'en fout. Finalement, les chants CM Punk partent. T'as McAfee qui essaye de sauver le truc, mais même lui, il n'y arrive plus, quoi, au bout d'un moment, quoi. Mmh. Et finalement, ils vont essayer de retirer l'épée du bureau un peu à la Excalibur. Ils vont pas y arriver. Heureusement, le psychopathe écossais va débarquer parce que j'ai cru que ça allait jamais arriver, mais c'est finalement arrivé. Le bel homme est là. Il va tabasser les heels. Il va récupérer son épée qu'il va tenter de balancer sur Happy Corbin, d'ailleurs. Mais il va finir par blesser quelqu'un, le bel homme, avec ça. Et finalement, Moss va tirer son pote hors du ring. Messieurs, Dieu sait à quel point j'aime le bel homme. Mais alors là, comme on était dans le fond du fétou, mon Géliel.
Ah bah c'est de la merde.
Malheureusement, même mon enthousiasme le plus primaire n'arrive pas à passer au-dessus de ça. Du début
à la fin, c'est de la merde, quoi. Les blagues, faut vraiment arrêter, c'est gênant, mais c'est un niveau de gênance absolue. Le gars qui essaye d'arracher l'épée à deux avec dans un truc en carton, enfin on n'y croit jamais une seule seconde. Après McIntyre qui arrive, qui se barre, enfin ça n'a aucun intérêt, ça ne construit rien. On n'imagine pas une seconde qu'ils vont aller se battre contre McIntyre. Enfin je sais pas, ça n'a aucun intérêt. Ça bouffe du temps, c'est affreux. Voilà.
Ouais, c'est long.
Bouffe du temps de cerveau sur la rivalité
Ah.
Corbin McIntyre.
Ouais, bah je disais que voilà, la draft, ça avait un peu plombé SmackDown à un certain niveau. Bah par exemple là, même si je crois que Corbin était déjà dans le coin avant la draft, mais ouais, parce qu'ils ont quand même Ricochet, Mustafa Ali, Mansour qui traînent dans les vestiaires. Hein. On pourrait leur donner du temps d'antenne à eux plutôt que aux deux abrutis là. En plus Corbin McIntyre, je crois que c'est du déjà vu. Enfin, vraiment, vraiment aucun intérêt, c'est mal fait. Alors je sais pas qui écrit ça, mais il faut qu'il arrête quoi. C'est nul, c'est nul. Et puis bah, on espère que ça va se terminer à Day One et puis que ça va pas continuer. Puis qu'il, je sais pas, qu'il fasse autre chose avec Corbin et Moss là, ou alors dans des trucs vraiment beaucoup plus courts parce que là c'est pas possible hein, de les mettre au milieu du ring et de tenir. Je sais pas, ça va bien durer 10 minutes toute cette merde là. Il faut s'accrocher quand même. Il faut s'accrocher. Et puis il est temps que McIntyre y revienne un peu sur le devant de la scène, donc je voilà, je sais pas, que ce soit tout ça soit très rapide, que ça se termine à Day One et qu'on passe à autre chose.
Oui, voilà, j'en aurais pas beaucoup plus à dire. Effectivement, c'était très 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 mauvais, voilà, attristé de voir Drew McIntyre dans un truc pareil. Comme toi, avec ça, je ne comprends pas avec le monde qu'il y a dans le vestiaire que Corbin réussisse encore à choper de la lumière.
Ouais.
J'avoue que ça, moi, ça me sidère. Hein. Bon, putain, je veux bien qu'il y ait des avocats de barons, hein, mais très franchement, moi, de mon côté, ça passe pas. Et là, alors là, c'est, je crois qu'il est dans le pire du pire de ce qu'il a été depuis le début. Je crois que je préférais le corporate baron ou je ne sais
Ouais,
plus quoi. Mais
ouais, ouais.
là, ou même en tant que King Corbin. Mais là, franchement, alors là, non, non, non. Et puis Madcap Moss, mon Dieu, parce qu'on parle de Corbin. Mais là, je crois que je crois qu'en plus, ils ont trouvé plus mauvais encore. Donc là, vraiment, Madcap Moss, mais c'est une catastrophe.
Le gimmick est insupportable, hein. Insupportable, quoi. Vraiment.
Ouais,
Ouais,
dans le mauvais sens du terme, hein, c'est pas.
Et puis le gimmick,
On va pas le
il faut
voir à
qu'il
l'antenne, quoi.
il faut qu'il colle avec le mec et avec un peu le charisme du mec, un peu. Et là, c'est pas le cas. Là, on est à côté de la plaque, quoi. Donc non, non, vraiment. Au final, ah non, 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 c'est non. Voilà, c'est tout
Non,
simplement
on ne sera
non.
pas sauvé. Au grand dame du patron IRM, on est obligé d'enterrer Corbin et
En
Madcap
plus,
Moss.
ce que je trouve con, c'est que ils ont envoyé deux fois des petites pistes là, où quand Corbin avait viré Madcap Moss sur de la Battle Royale. Et puis là, quand il lui avait aussi, il l'a envoyé en combat contre je sais plus qui la semaine dernière, je crois. Il y a moyen de semer peut-être un truc où finalement ils sortiraient tous les deux de leur gimmick de merde ou de blague à la con pour qu'ils se foutent un peu sur la tronche et qu'on revienne un peu à du catch parce qu'en plus les gars ils catchent pas quoi. En plus
Ouais, c'est ça,
d'être
donc oui.
insupportables. Et ils avancent pas trop sur ce. Alors on n'en ferait pas grand-chose, hein, mais ce serait quand même déjà un peu plus que raconter des blagues avec des jeux de mots en anglais qui sont à chier par terre. Enfin vraiment, voilà en sortir quoi. Donc je sais pas ce qu'ils veulent en faire.
Ouais, je ne saurais en dire plus. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste pas possible. Allez, le pire, c'est que ils vont être sur la carte de Day One. On va avoir, ça se trouve, un Happy Corbin versus Drew McIntyre à Day One dans le cadre de
Puis,
cette feud, quoi.
manquerait plus qu'une défaite de McIntyre, tu sais,
Ah
avec un
bah,
tournant sur
voilà.
Corbin, et puis après, ouais, c'est reparti pour un tour.
Allez, feu d'artifice!
Attention, attention.
Allez, allez. Tiens, en parlant de ça, si vous avez savez pas quoi faire, je fais une digression absolument de n'importe nawak. Et je me suis refait le petit main event dans l'espérance de la venue d'un certain catcheur français masqué. Je me suis refait le main event de Quality Over Quantity 2021 et vraiment un gros gros match quoi avec Vallec Cuervo, Tristan Archer, Senza Volto et Mike D. Et je vous conseille ce match, un Fatal 4-Way de fort bonne facture, ma foi. Allez, on revient à la WWE, et on revient sur le ring, et là, cette fois, c'est Sheamus qui apparaît, et qui apparaît avec son nouveau pote, hein, Ridge Holland. Donc, ma foi, deux fort beaux gabarits qui débarquent, et qui va affronter Ridge Holland? Eh ben, c'est Cesaro. Alors, ça va être un match vraiment expédié, hein, ça va durer moins de 3 minutes. Sheamus va en profiter, va faire une distraction. Holland va mettre un coup avec sa barre.
avec sa matraque. Et Cesaro va se retrouver à terre. Notre arbitre national, Charles Robinson, va vouloir s'occuper de lui. Hein. Du coup, Cesaro, il va avoir les côtes bandées, mais il est toujours prêt à en découdre. Donc, il va y avoir quand même bagarre. Mais Holland va prendre le contrôle du fait de l'avantage de Sheamus, en plus, qui n'arrête pas de parler à Cesaro, etc., qui essaye de lui mettre la pression en permanence. Cesaro va réussir à faire quand même une belle back suplex à l'anglais. Finalement, uppercut dans le coin. Coup de dans le dos, coup de corps, un gros coup dans les côtes va renverser notre Superman suisse. Un gros lariat quand même de réponse du Cesaro, mais ça va envoyer Rich par-dessus la barrière d'insécurité. Derrière, il va y avoir un European uppercut hein, de Cesaro, mais finalement, Sheamus va venir foutre le bordel, Sheamus va venir interférer, Sheamus fait de l'ingérence dans ce match, et finalement, Holland va cogner notre ami Cesaro aux côtes, va le soulever avec une pelle ou je sais pas quoi, quoi, et quel est le nom de son finisher de ce garçon, tiens, d'ailleurs c'est... Je trouve l'info en même temps que je que je le dis. Finalement, Ridge Holland va placer son Emerald Flowstorm. 1, 2, 3, victoire de Ridge Holland. Ridge Holland et Sheamus se foutent de la gueule d'un pauvre Cesaro qui est en bas de l'apron en train de souffrir sa mère. Et là, franchement... Bah moi j'étais un peu triste à la fin de ce segment, je vous le dis tout de suite, et je sais pas si vous étiez dans le même état d'esprit que moi, mon bon ringside.
Bah tu parlais du finish de Ridge Holland, son finish c'est un power slam quoi.
Ça voilà. Donc,
alors un déjà que le mec...
Ah mais moi j'ai décidé de faire des trucs compliqués, toi tu fais des trucs simples, donc comme ça c'est bien, c'est complémentaire. Bon,
on n'a pas le même résumé je crois sous les yeux. Alors... Ridge Holland, déjà qu'il a pas de personnalité, qu'il a un gimmick pourri avec sa matraque, si en plus il a pas de finisher, je sais pas où on va aller avec lui, hein. Donc va falloir bosser un petit peu le personnage. Ouais, effectivement c'est triste pour Cesaro. Maintenant ça fait partie de l'histoire racontée, donc c'est pas, il est quand même légèrement protégé puisqu'il se fait casser les côtes avant le match par Ridge Holland en traître à coup de matraque ouais, ouais. Là, faut bien que la matraque elle serve à quelque chose plus que ce qu'on imaginait jusqu'ici. Le truc c'est que je crois pas du tout en Ridge Holland hein, malheureusement, donc ça me paraît encore être un peu une perte de temps. Il faut au moins au minimum trouver lui un finish quoi, une power bomb ou un truc comme ça qui soit un peu il était un petit peu plus cool dans le ring, à la fin il souriait et tout, bon il y a une petite un peu de personnalité qui transparaît parce que jusqu'ici il avait toujours le visage fermé, il avait l'air quand même pas mal coincé du cul. Là ça commence à y avoir un petit peu de vie. Maintenant, finissez de construire le personnage avant de l'envoyer à la télé, quoi. Au moins un finisher et puis une gimmick un peu plus abouti que le mec qui vient avec une matraque, quoi. C'est un peu. Alors ok, c'est le fan de Sheamus, mais je sais pas si c'est un truc vraiment qui va faire accrocher les gens. Bref, le mec a le physique, essayez de construire quelque chose autour de son physique. Là, c'est un peu léger, quoi. Puis on aimerait voir Cesaro dans autre chose que ça. C'est pas vraiment le gars encore qui est là pour mettre les autres over. Chez Zaro, il y a peut-être d'autres choses à faire, hein. Notamment il y a le titre intercontinental qui traîne. C'est un peu du gaspillage de talent, un peu pareil pour Sheamus. Je veux dire, s'ils sont là tous les deux juste pour essayer de construire Ridge Holland alors qu'ils font rien pour le construire au final, à part le foot au milieu des deux, tout ça ne me paraît pas la meilleure technique.
Je vais prendre la main. Pour moi, déçu effectivement pour Cesaro. Alors bon, il est toujours dans son rôle de worker, donc il bosse quoi. Il y a pas vraiment de gros sujets. T'as raison, ringside. Après, Ridge Holland sort un petit peu du mode où il était le pet de Sheamus là, l'espèce d'animal de compagnie là. Il est un peu épais, mais on sent qu'il est pas fini. Il mériterait d'être un peu plus, surtout si c'est le pote de Sheamus, il devrait aller un peu plus à la salle. Il est très épais, hein, mais il fait un peu fat. Après, c'est un peu rapide. Il y a eu plus de pubs que de matchs au final, je crois, hein, quasiment, puisqu'entre le moment où il se fait blesser et où quand ils reviennent avec son bandage là. Ouais, bon, alors j'espère que c'est pour le construire petit à petit. Donc Cesaro y est passé, on va voir qui va être le prochain pour continuer à builder Ridge Holland. Voilà, j'ai pas l'impression que ça serve à autre chose.
On était contente quand même de pas l'avoir vu la semaine dernière, au final, ils en avaient pas parlé du tout. Il était de retour là.
No show.
No show, bon, voilà, on le récupère cette semaine.
Une semaine sur deux, je pense que c'est le bon.
C'est garde bon alterné pour Ridge Holland.
Oui, c'est ça.
Seulement le week-end.
Moi, ça m'attriste un peu parce que j'ai l'impression que toute l'histoire, la WWE qui nous bastine tout le temps avec l'histoire, bah voilà, The Bar, voir une espèce de rivalité comme ça un peu tombée du ciel avec Cesaro, Sheamus, tout ça. En plus, avec l'année qu'ils viennent de faire tous les deux quand même,
ouais,
quand
mais c'est ça. Toi.
Parce que c'est, en fait, c'est surtout ça qui me chagrine, moi. C'est, alors, j'imagine que ça se trouve, Sheamus et Cesaro, peut-être que eux, dans le local, ils sont super contents de bosser ensemble et que, en fait, c'est le kiff et tout ça, hein, si tu veux, hein, je remets pas ça en question, hein. Moi, je mets ça, je vois ça d'une perspective de kayfabe, en tant que téléspectateur. Et je vois deux mecs qui ont fait une année de monstre, parce que tous les deux ont fait une énorme année, et tous les deux ont un historique incroyable en tant que The Bar et tout ça, ancien champion du monde par équipe et tout. Et voir ce truc-là avec ce Ridge Holland au milieu qui, finalement, comme vous le dites, tous les deux, de toute façon, est assez mièvre et n'a pas d'intérêt plus que ça. Bah c'est un peu dommage, je trouve que ça fait un petit peu finir l'année avec un peu de tristesse. Et puis au final, on n'a pas eu de catch véritablement, hein, voilà,
bah non,
avec cette histoire de côte. Et puis voilà, c'est un match qui aura duré 3 minutes. Enfin, en plus, il n'y aura même pas eu d'intérêt catchesque à voir Cesaro s'envoyer ou quoi que ce soit. Donc non, pour puis, moi, ouais, c'est passé un peu à côté là.
Puis Sheamus et Cesaro, pour moi, leur place elle est dans le main event en fait, hein, elle est, ou pas dans le main event, au moins juste en dessous quoi. Pas là, on c'est quasiment la fond de carte là, essayer de mettre over Ridge Holland, c'est plus leur place à chez M. Cesaro. Ils ont prouvé encore cette année qu'ils sont là pour faire le spectacle et que quand ils sont dans un pay-per-view, c'est les shows stealer quoi. Donc,
bah, ou qu'on refasse le bar et qu'on aille mettre
voilà,
du
même
monde
carrément au pire. Ouais, ils auraient tout à fait leur place. Ouais, on refait une triple frite face aux Ouzo et aux. Et au New Day, voilà, non, mais c'est deux gars sur qui devraient être beaucoup plus haut dans la carte. Sheamus et Cesaro, ça a aucun intérêt de les garder là en bas, juste pour essayer de construire Ridge Holland, quoi. C'est du gaspillage de talent, c'est tout ce qu'il y a à dire.
Et pendant ce temps-là, Nakamura, tranquille, tirant des piñatas. Allez, après la piñata Nakamura, cette fois on rejoint le ring pour retrouver. Ah non, bon, ouais, on aura juste le dernier passage pour complètement clôturer et entériner la merde qui nous a été proposée tout à l'heure, puisqu'on aura quand même un angle où on verra Drew McIntyre qui est avec son épée en train de chasser Happy Corbin et Madcap Moss. Hein. Voilà où on en est. Hein. je et on va même terminer complètement.
C'est pas la toute fin.
J'allais terminer le segment en fait complet pour qu'on en parle plus. Hein, définitivement de cette affaire, puisqu'après ils vont se cacher dans un coin sombre, hein, les deux Gugus, quoi, pour donner une interview. Alors, ça, c'est pas mal, ça. Donc, du coup, la lumière va s'allumer, bien sûr, ils vont protester, la lumière s'allume, mais Happy dit quand même qu'il est heureux parce qu'en ce moment, sa vie, elle est bonne et qu'il peut regarder les gens ordinaires de haut et sourire et qu'il va rire comme ça jusqu'au nouvel an parce que Drew McIntyre va perdre contre Madcap Moss au premier jour. Donc, on apprend. Non pas que ça sera Happy Corbin qui va affronter Drew McIntyre à Day One, mais bien Madcap Moss. Alors Moss, il fait un peu la gueule, hein, mais il va tenter quand même de la garder un peu haute face aux potes. Mais voilà, c'est l'info de la soirée. Madcap Moss versus Drew McIntyre, Day One. Je sens votre enthousiasme, je sens comment vous êtes heureux d'apprendre ça.
Ouais, moi je suis chaud bouillant. Hein. au final, ils auraient juste pris le petit segment là.
Ça voilà,
hein,
mais carrément
pour toute la
mais
truc quoi. Hein.
Carrément.
C'était le plus réussi du bordel. Les deux cons qui sont coincés dans le, qui sont cachés dans un endroit sombre, qui demandent à ce qu'on n'allume pas la lumière. Ça, j'ai trouvé ça marrant. Mais ils auraient fait juste ce segment-là, ça suffisait pour la soirée. Hein.
Surtout qu'ils étaient vachement bien cachés, puisque la pauvre, c'est Megan Morant, je crois, qui les trouve en 3 secondes. Ouais. Bon, c'était ça la deuxième partie de l'angle dont je parlais tout à l'heure avec. Baron Corbin, enfin Happy Corbin qui balance Madcap Moss dans le match contre on voit la tronche qu'il fait. Il y aura peut-être, ce sera peut-être après qu'il y aura peut-être un split qui va être fait entre les deux cons et puis je sais pas, peut-être ça peut être intéressant.
Première graine son plan. Ouais.
Bon, j'ai pris la décision de ne plus parler de ces gens.
Voilà.
Alors Naomi est sur le ring. Ah Naomi, ah. Naomi elle est flashy. Naomi elle met de la musique, c'est de l'ambiance. On est ambiancé, on est chaud. Elle est au micro, elle est en pleine forme. Elle déclare qu'elle a amené sa liste de Noël. Et ça fait toujours plaisir. J'espère que je suis dessus. Eh ben non, en fait, elle apprend qu'il n'y a qu'une seule chose sur sa liste de Noël. Elle veut Sonya Deville en 1 contre 1. Elle nous explique que Sonia, elle a tout fait, sauf l'affronter en un contre un, au point où on en est là, et que dorénavant, elle veut avoir le match, et veut avoir le match. Ce soir, là-dessus, Sonia Deville fait son entrée et nous explique que tant qu'elle porte le costume, elle est intouchable. Alors apparemment, ça doit être dans les règles, hein, à la WWE, d'ailleurs une charte, j'imagine. Mais bon, comme elle a une adversaire qui lui supplie voilà, de mettre la main sur Naomi, eh ben, elle a une amie qui va venir l'aider. Et la bonne amie, c'est
grosse
qui
surprise,
c'est...
Grosse surprise.
Grosse, énorme surprise. Shayna Baszler. Shayna Baszler débarque.
Ah, Shayna Baszler.
Eh ouais.
Le retour de Shayna Baszler.
Eh ouais. Et donc Naomi, du coup, elle dit ouais, mais c'est super et tout. Moi, je vais me battre contre Shayna, mais après, je veux Sonia. Donc, Deville, elle nous fait tout un pataquès. On dit qu'elle va la battre tout de suite, machin, blabla, blabla, blabla. Baszler, finalement, elle attaque par derrière. Coup de coude répété partout, dans la gueule, dans le genou, dans le ventre. DDT au genou. Alors, ça, DDT au genou, ça, c'est vraiment pas sympa. Sonia, qu'est-ce qu'elle fait? Ding, 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 ding! Elle ordonne que la cloche sonne. Hop, hop, hop. Un petit crochet du talon dans la gueule. Naomi se débat dans les cordes. Et finalement, elle parvient à pivoter. Ah, ah! Et elle va gagner avec son folding press. Ah, Naomi qui gagne. Bouh, bouh, Shayna, t'es pas belle. Voilà, en 30 secondes, messieurs. Voilà un grand match de catch. Victoire de Naomi. Mais Naomi, finalement, elle n'aura pas eu ce qu'elle voulait. Puisque, pour l'instant, elle n'aura pas réussi à mettre les papates sur Sonia Deville. Je pense que tu en es fort, Marie Géliel.
Oui, parce que ça commence à devenir lourd, quoi. Mais vraiment lourd, quoi. Et en plus, quand vraiment elle a... En plus, c'était affreux, parce qu'elle a commencé à dire « Oui, il y a quelqu'un qui arrive, j'ai quelqu'un en tête, etc. » On se dit « Putain, un retour, un
truc. »
Ouais, t'as toujours un peu envie, quoi. Et là, non, Shayna Baszler, quoi. Pour la 83e épisode, enfin, vraiment... insupportable, quoi. Insupportable. En plus, non-match, enfin, tout est à chier. Vraiment. Non, mais vraiment.
Alors, c'est ah, bonne fête de Noël, peuple de catch-up. On vous a sorti un SmackDown de derrière les fagots.
Il y a un moment donné, on a touché le fond, hein, quand même, dans cet épisode du show bleu. Moi, je suis d'accord, c'est zéro. Naomi, ça fait combien de temps qu'elle est là ? 15 ans, elle sait toujours pas faire une promo. Sonia Deville, moi j'en peux plus. Puis Shayna Baszler, voilà, elle a quand même un catch qui est quand même limité. Elle se fait battre en même pas. Ça fait 29 secondes, hein, même pas 30 secondes le match. Tout ça sert à rien. On l'a déjà vu 12 fois le match. C'était un peu l'équivalent de Corbin, mais chez les femmes, quoi. Donc, moi perso, ras la casquette.
Aïe 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 aïe. C'est Shayna Baszler, mais alors là, Shayna Baszler ou Sonia. Alors Sonia Deville, moi pas. Alors, moi j'aime plutôt bien Naomi, mais vraiment Sonia Deville.
J'aime bien Naomi aussi, mais elle sait pas faire de promo.
Je ne comprends pas comment Sonia Deville, elle a réussi à s'en tirer avec ce poste de manager officiel.
Ouais, ça, j'ai pas compris non plus.
Parce que alors là vraiment là, moi ça reste une énigme. Même Adam Pearce par moment ces derniers temps fait un peu n'importe nawak. Mais vraiment, Sonia Deville, ça prend des proportions là maintenant là. Et puis il y a vraiment là, cette rivalité Naomi, ça dure depuis. Parce que c'est pas comme si là ça durait depuis 2 semaines. Hein. Ça fait depuis septembre. On est à la fin décembre, quoi. C'est un truc de fou. Et non, ouais, c'est pas acceptable. Et puis Shayna Baszler. Shayna Baszler, voilà, elle fait partie des catcheurs avec qui j'avais des doux rêves. J'avais des douces ambitions.
Ouais, pareil.
Tu vois, je caressais l'espoir de voir Shayna Baszler péter des gueules. Et quand elle est arrivée sur le coup, je me suis dit, quand elle a pété la gueule, je le répète sans arrêt, mais quand elle a pété la gueule à tout le monde à l'Elimination Chamber, je me suis dit, voilà, c'est comme ça qu'il faut booker Shayna Baszler. Et maintenant, Shayna Baszler, en fait, c'est soit le suppôt de Nia Jax, enfin feu Nia Jax, ou alors l'enforceur de Sonia Deville. Oh non, mais non, mais non. Mais
moi, ce qui m'embête un peu, c'est que j'ai l'impression que même elle n'y croit plus, quoi.
Ouais.
Hors de forme, elle est pas hyper punchy dans ses promos, dans ses impacts. J'ai l'impression que même elle n'y croit plus, quoi.
Je sens qu'elle se force, même son costume est pourri, là, la moitié maillot d'elle, là, je sais pas ce qu'elle a été chercher, mais...
Ouais, je sais pas, enfin, vraiment, grosse déception encore du côté des filles, là, à se demander si c'est pas possible, je ne comprends pas.
Tu peux pas l'utiliser comme ça en weekly, il faut que ce soit une attraction,
mais voilà,
que ce soit quelqu'un qui débarque comme ça et qui pète les gueules, comme il faisait un peu avec Marc-Henri à une époque, ou des trucs comme ça, c'est le monstre arrive et puis il va falloir battre le monstre, quoi.
C'est comme ça qu'elle était bookée à NXT. Ça marchait du feu de Dieu, quoi. Il n'y avait pas de problème avec ça, quoi. Et ils avaient commencé, on va dire, sur les 6 premiers mois de son arrivée. Voilà, les 6 premiers mois de son arrivée, on a eu droit à une vraie Shayna Baszler. depuis, on a le droit au fantôme de Shayna, quoi. Donc c'est ouais, la reine de pique et tout, elle a complètement disparu. Enfin, c'est vraiment ouais, c'est encore une fois là. Bon, les amis, on va voir le dernier match de catch de la soirée, notre main event catchet. Donc c'était promis, chose promise, chose due. Les New Day affrontent les Usos pour la 1474e fois exactement depuis 2014. Donc vous imaginez un peu, on est dans une fourchette basse là, hein, puisqu'on est dans un match de 8 minutes 30 où ils vont dérouler tout ce qu'ils veulent. Alors là, il y a pas de problème, hein, les quatre mecs là sont des super pros. En plus, ils se connaissent par cœur, donc fatalement, ça donne un match enlevé. Il y a pas de problème, vous avez toute l'ambiance qu'il faut dans un match entre les New Day et les Usos, sachant qu'en plus les Usos en tant que heel font le job à merveille. Kofi qui revient, qui a pas trop catché en fait ces derniers temps, hein, qui a été absent, qui a été en congé paternité, tout ça, qui est revenu peinard, qui me semble dans une forme un peu relative, mais pas toujours la banane aux lèvres, et puis prêt à s'envoyer à mort avec les Usos. Et donc c'est ce qu'ils vont faire pendant un peu moins de 9 minutes. Je sais pas, c'est assez bizarre chez les Usos parce que j'ai l'impression qu'il y a Jimmy qui est toujours avec le sourire et tout. Et puis on a de l'autre côté, on a le Main Event Jay qui, lui, alors lui par contre, est tout le temps en train de faire la gueule, hyper agressif, hyper Jay. On sent qu'il y a une espèce de colère en lui en permanence, quoi. Et il en veut particulièrement à Xavier Woods, hein, d'ailleurs. Entre lui et Xavier Woods, ça va s'échanger de manière très stiff, quoi. Et bon, il y a du rythme, ça c'est cool, quoi. C'est toujours bien. Finalement, au bout du bout, après avoir tenté plusieurs signature moves, il va y avoir un Trouble in Paradise qui va être contré par Jay. Jimmy va réussir à coller un super kick pour un near fall. Finalement, le tag à Jay, mais cette fois, il n'a pas vu le tag Uso, il n'a pas vu Kofi. Mais s'il va revenir, Kofi va prendre l'avantage. Et les New Day, grâce à un Trouble in Paradise qui cette fois va passer de Kofi Kingston sur Jimmy Uso, 1, 2, 3, victoire clean des New Day sur les Uso, juste 15 jours avant Day One. Est-ce que c'est un indicateur pour le pay-per-view? Je ne m'avancerai pas jusque-là, mais par contre, peut-être que mes collègues vont tenter le fantasy booking. Mon ringside.
Ouais, un retour des ceintures autour du New Day, c'est tout à fait envisageable, hein. Ils sont un peu le vent dans les voiles en ce moment. Moi, j'aime beaucoup Xavier Woods, hein, ce qu'ils en ont fait. Je trouve que c'est le meilleur King of the Ring depuis bien longtemps. Kofi, bah, il fait toujours le taf. Là, on voit qu'ils sont incapables de faire des mauvais matchs quand même contre les Usos. Hein, en 8
on
minutes,
peut pas dire de mal, quoi. On peut pas dire de mal un match comme ça, quoi.
C'est impossible, t'as plein de near fall et tout, le public est à fond. Le match est spectaculaire, ça va à 200 à l'heure. Voilà, rien à dire, chapeau, on voit que c'est les patrons. J'ai l'impression qu'il y a aussi encore pas mal de choses à faire avec Jimmy Uso, qui me paraît bien à l'aise au micro. Tu vois, comme tu disais, Jay, le main event, donc c'est lui qui a eu cette période en solo, justement quand Jimmy était blessé. En fait, je crois que c'est vraiment le moins bon des deux au micro. Et j'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de choses à faire avec Jimmy, qui pète le charisme en ce moment, lui. Pour moi encore ces quatre là il y a encore plein de choses à faire avec, et ce match là encore cette semaine c'est basé sur rien, hein. Ils font une petite promo avant où les Usos disent on veut notre revanche ce soir, on s'affronte ce soir puis on s'affrontera à Day One, puis on va vous battre, et puis bon, finalement ils perdent. Tout ça n'a pas grand sens, mais ça, du moment que c'est les deux meilleurs tag team, c'est normal qu'elles s'affrontent. Donc
ça a un petit peu de sens par rapport à ce qui va se passer après, mais
si c'est pour une ligne de dialogue dans la
oui.
Suisse, pas non plus, voilà.
Il y a un créatif qui a bossé comme un dingue. Il faut que tu places cette phrase à ce moment-là.
Mais tu sais, ça fera référence au moment où on avait dit que. Etc.
Non, mais en tout cas, voilà, on voit que la ceinture, elle est en bonne main. Dans le monde du catch, à l'heure actuelle, je vois pas grand monde au-dessus des Usos et du New Day. Et c'est un des trucs, voilà, qui me fait kiffer SmackDown chaque semaine. Donc, je peux pas bouder mon plaisir. C'était un très très bon match, encore une fois.
Pareil, on sent que les gars, en vrai, hein, ils pourraient catcher 8 minutes les yeux fermés tous.
Ouais.
Que ça rendrait le même match, quoi.
Totalement d'accord.
Et donc ils se connaissent par cœur, mais ça va bien. C'est pas dans le copinage et compagnie. Les gars se balancent pareil. Je rejoins Rinsack sur Woods, quoi. À un moment il fait un splash, mais on sent qu'il est. C'est pas normalement c'est.
Il y a la descente de la cuisse là du haut de la troisième.
Oui, c'est ça.
Il montre à 3 mètres.
Il est haut le gars. Et il est haut. Hein. On a l'habitude de voir du Montez Ford faire des trucs comme ça, hyper haut. Et quand c'est un Xavier Woods vachement plus trapu, plus nerveux, etc., qui monte là-haut, on se rend compte quand même qu'il est en grosse, grosse forme, quoi. Et puis qu'il envoie du lourd en ce moment, quoi. Sinon ça s'enchaîne bien de tous les côtés, ça fait plaisir à voir. Et puis bah écoute, même s'il pourrait y avoir 19 à 18, et ben on sera content du prochain match pour savoir s'il y aura 20 à 18 ou 19 partout, et puis voilà quoi. Et donc Day One, j'attends. Et puis même s'il y a une revanche la semaine prochaine, bah c'est pas très grave. Comme je disais au début, hein, le plus chiant c'est qu'on soit obligé de se rabattre là-dessus pour voir du tag team de qualité, parce que à côté de ça, c'est un peu mou derrière, quoi. Voilà, c'est le seul truc que je regrette de les voir si haut, quoi.
Ouais, après c'est ça, hein, c'est vrai, on se lasse pas en fait de les voir catcher dans tout ce qui concerne entre les cordes, parce que à chaque fois ils délivrent la marchandise. Et à chaque fois, c'est des matchs de super qualité. Alors évidemment, on s'en souvient pas quoi plus que d'autres, etc., etc. Mais ça reste dans la lignée en fait de cette rivalité qui est presque une rivalité légendaire. Enfin, je veux dire, quand vous regarderez des best-of en 2035 de la WWE, peuple de catch-up, et bah vous aurez droit à la rivalité Uso-New Day de 2014 à 2025. Quoi. voilà, ça sera dans les cartons des DVD de la WWE. Et ça, bah, ils ont rajouté quelques images à ce futur DVD. Donc voilà.
On se souviendra à l'époque que c'était le retour de Goldberg en 2027 qui avait fait que la rivalité s'est arrêtée.
Jimmy Uso contre Goldberg.
Voilà.
Goldberg père et fils.
Donc voilà. Donc les mecs, merci et puis bravo. Et puis cette fameuse petite phrase pondue par un mec avec des lunettes d'1m60 et de 45 kilos, elle va resservir à quelqu'un dont on va parler tout de suite, puisque ça y est, on arrive. Alors on a juste une dernière petite info avant de rentrer dans ce qui va être le main event promotionnel, puisqu'il y a Tony Storm. On nous apprend que Tony Storm aura donc définitivement une chance de gagner le titre contre Charlotte Flair, et ça se passera la semaine prochaine. Eh bien non, ce ne sera pas pour Day One, ce sera pour la semaine prochaine, ce qui sent mauvais pour Tony Storm au passage, hein.
Ouais, pas très bon pour Tony Storm. J'aurais préféré voir ça à Day One aussi, perso. J'espère. Après, je sais pas, Charlotte, elle a l'air indéboulonnable quand même. À voir.
C'est un peu rapide, peut-être.
C'est un peu tôt, peut-être, pour Tony Storm, ouais. Même si ça fait un moment qu'elle est dans le giron de la
télé. Dernière info que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, là, dans le segment avec Adam Pearce, Sonya Deville et tout ça, c'est qu'ils ont donc annoncé à Sami Zayn, parce que Sami Zayn était venu un peu pleurer.
Oui.
Et à juste titre, parce qu'au moins, Sami Zayn, il fait plaisir. Il parle du titre intercontinental, il parle de la ceinture mondiale.
Enfin, voilà, il parle assez de Sami Zayn.
Sami Zayn, lui, il parle des titres en jeu à la WWE, quoi. Donc, il évoque le titre intercontinental, le titre major. Bref, il est là, Sami Zayn, quoi. Et du coup, Pierce va en profiter et va lui dire, tiens, titre intercontinental, ça tombe bien. Nakamura, il est aux Seychelles. Donc, écoute, ce que je te propose, la semaine prochaine, on se fait une petite baston à 12. Alors, j'ai pas le line-up en tête, mais il y avait de la Tag Team Division là-dedans, parce que je crois qu'il y avait les Viking Raiders prévus dedans. Il y avait Shang-Chi et Jinder Mahal, donc 4 des gars qui étaient là. Il y a Ricochet, il y a Drew Gulak, et je ne sais plus qui. Si jamais vous avez l'info, vous me la dites au passage. Mais je n'ai plus en tête.
J'ai pas le line-up,
J'ai pas en tête le line-up des 12 mecs. Mais au moins, enfin, il se passe quelque chose pour le titre intercontinental. Voilà, il va y avoir un combat pour déterminer un number one contender. Et vivement, vivement que Shinsuke se fasse botter le cul. Allez, allez.
Là, c'est quand même une des vraies bonnes nouvelles de ce SmackDown.
Tu vois, si j'ai bien compris, c'est un gauntlet match de 12.
Un gauntlet match à 12.
Je ne sais pas se souvenir d'avoir vu un match comme ça à la WWE, parce que 12 personnes, ça fait beaucoup pour un gauntlet quand même. Hein.
À 6, ouais, mais à 12, je n'ai pas souvenir non plus. Hein.
C'est énorme, hein. Visiblement, ça va être le match de la semaine prochaine, donc il y aura ce match-là et le championnat féminin. Je pense que ça fera le show en entier.
Alors, vous voulez le line-up?
Allons-y.
Ricochet, Cesaro, Mansour, Eric, Ivar, Drew Gulak, Sheamus, Sami Zayn, donc forcément.
Il y a Sheamus.
Ouais. Jinder Mahal, Shanky, Angel et Humberto. Pas Cario, hein, juste Humberto. Voilà, et donc ça fera 12 pour ce 12-man gauntlet match.
Il y a Sheamus.
Et donc, le gagnant qui gagne effectivement un shot pour l'Intercontinental Championship.
Wow. D'accord, ok. Sachant que ça a été enregistré, le SmackDown de la semaine prochaine. Il est déjà dans la boîte. Hein. Donc il y a déjà.
Oui, j'avais lu que ce serait pas. En...
Ah, j'ai fermé les yeux, mais j'ai déjà vu qu'il y avait déjà 1000 spoilers qui étaient déjà en route. Hein. Donc.
Bon, on va garder le suspense hein, jusqu'à la semaine prochaine. Donc, je suis hypé là pour ce match. Je suis vraiment curieux de voir.
Ah ouais, carrément. Ouais, ouais, moi aussi. Ouais, moi aussi. Ouais. Donc et puis je suis tellement pressé de voir le titre continental changer de main et passer à autre chose là que de toute façon là j'aurais été prêt à accepter à peu près tout, même un bras et une panty. Mais là franchement non, il fallait que ça s'arrête quoi. Bon allez les gars, ça y est, on arrive à la fin. Alors en triple frite hein, les amis hein, c'est review fleuve hein, vous avez l'habitude hein, vous connaissez la procédure hein. Allez, on y est, on est au main event quand même. En attendant on a notre Paul Heyman qui est là, qui est dans l'attente en fait de la bagnole puisque la première fois c'était Brock Lesnar. Ben là ça y est, c'est bon, Roman Reigns est bien là. Paul Heyman, ça va mal commencer parce que Paul Heyman il va vouloir ouvrir la porte à Roman Reigns, mais l'autre il va sortir de l'autre côté, ran à foot. Il lui dit qu'on va aller directement au ring, on va aller sur son ring. Ils font leur entrée, alors sous une bronca assez énorme, et en même temps, je sais pas si vous avez entendu, mais il y avait beaucoup de gosses, j'ai eu l'impression, à Chicago, là, et il y avait une pop un peu à la John Cena de 2010 là, quand il y avait tous les enfants qui n'en voulaient, qui étaient dans la salle et qui faisaient du cheer dans tous les sens pour notre ami John Cena. C'était un peu ça. Finalement, Roman, il arrive, il se met au milieu du ring, il laisse la foule un peu chauffer comme il faut quoi. Il est accompagné bien sûr des Usos, toute la Bloodline est là, et là il va prendre le micro et Roman Reigns va nous faire un Chicago. Et alors là, juste il dit juste ça. Chicago. Bronca monstrueuse qui démarre, etc. Il laisse passer, je pense, une vingtaine, trentaine de secondes. Et là, il nous balance un Acknowledge me. Et là, la foule, un truc de dingue. C'était alors avec le Paul Heyman qui le regarde quand même en voyant qu'il a l'air d'être dans le sérieux ce soir, notre Roman Reigns, et ça va être effectivement le cas. Après avoir demandé à la foule de le reconnaître, il va tout de suite enchaîner sur la fameuse phrase pour dire qu'il aime pas quand ses cousins perdent, hein, et qu'il va y vérifier avec Jay pour s'assurer qu'il le sait bien, hein, qu'il le sait bien. Mais bon, c'est la famille, on peut traverser à peu près n'importe quoi parce qu'on est du même sang. Mais Paul, il se tourne vers Paul Heyman. Lui, il n'est pas de la famille. Il devrait savoir mieux que quiconque qu'il ne peut pas y avoir des gens qui lui manquent de respect. Parce que si on lui manque de respect, c'est toute la famille à qui on manque de respect. Et donc, du coup, il a quelques questions à poser, notre ami Roman Reigns. Et il va demander à Paul s'il peut toujours lui faire confiance. Voilà, il prend une semaine de congé. Il voit tout ce qui s'est passé à SmackDown la semaine dernière. Heyman, il lui a semblé vraiment bien louche dans cette affaire. Donc, il veut que ça soit clair. Est-ce qu'il savait que Brock Lesnar allait revenir à SummerSlam ? Est-ce qu'il savait que Brock Lesnar allait être au Madison Square Garden ? Est-ce qu'il savait que la suspension de Brock Lesnar allait être levée ? Et le plus important de tout, mon cher Paul Heyman, est-ce que t'es un conseiller spécial ou un avocat ? Donc là, autant vous dire que Paul a fait 2 litres d'huile, le costard est un peu poisseux, il est un peu anxieux, notre ami Heyman. Il va mettre un peu de temps hein, avant d'avoir chopé un micro parce que de toute façon Roman il veut pas lui donner le sien, donc il va être obligé de se tourner, aller prendre un micro au technicien. Il va revenir un petit peu transpirant, on a l'impression qu'il est à la limite de l'AVC quoi. Roman il lui dit que bon il veut la vérité quoi, hein, et que si pourquoi il lui demande pourquoi il protège Lesnar, et là-dessus Heyman va lui expliquer qu'il ne protège pas Brock Lesnar de lui, mais qu'il protège bien Roman Reigns de Brock Lesnar. Là, derrière, on voit les deux chiens, on se croit, c'est vraiment la meute, hein. Il y a les deux Usos derrière qui sont en train d'aboyer, littéralement, pas content. Reigns, il a beaucoup de mal à se contenir, on voit son visage, il a les mâchoires qui se crispent et tout ça. Et finalement, il va se tendre les bras et il va prendre Paul Heyman dans ses bras pour lui faire un câlin. Et il va dire à Heyman qu'il l'aime, qu'il remercie pour son honnêteté et ses 40 ans de service à la famille, et qu'il est viré, you're fired! Là-dessus, il va se tourner, faire mine de reprendre les cordes, et bam! Superman punch dans ta gueule à Paul Heyman. Là-dessus, Roman, il en a pas fini, hein. Il en a pas fini, quand même, on parle d'un sexagénaire, là. Et il va demander aux Usos d'aller chercher une chaise, puis une seconde. Il bloque la tête de Paul Heyman là-dessus. La musique de la Beast Incarnate retentit. Brock Lesnar est dans la place toujours dans sa magnifique salopette. Et puis bah là, voilà, il va, ça, là, ça va être boucherie. Hein. Bienvenue dans les métiers de la viande. Notre ami Brock Lesnar, il va sortir un premier ouzo avec un lariat. Ensuite, il va coller une souplex à l'autre. Finalement, ils vont terminer en chopant le. Alors, je sais plus lequel à ce moment-là. Je crois que c'est Jay. Il va lui porter un F5. Jimmy va quand même un peu se rebeller, va réussir à porter un super kick. Hein. Mais Brock va se relever et va recoller un deuxième F5. Là, celui va glisser sur le ring et Roman va essayer de l'attaquer avec la chaise qu'il avait pour péter la gueule au pauvre Paleman. Mais Brock va le relever, va prendre 2-3 coups de chaise quand même, hein, mais va réussir à choper Roman Reigns et va coller un F5. Il relève Roman Reigns une deuxième fois, il colle un deuxième F5. C'était la distribution de Brock Lesnar à Friday Night SmackDown. Mon ami Ringside, est-ce que tu es satisfait du Deliveroo Brock Lesnar?
Ah ouais, non, c'est... il mérite bien son chèque, ce bon vieux Brock. J'adore le voir débarquer avec sa salopette là désormais. Il y a rien à redire, c'était vraiment parfait. Voilà, c'était le moment dur du show quoi. C'était ça qui était important cette semaine, ce main event là, cette promo assez incroyable de Roman Reigns qui va finir par virer Paul Heyman. On était dans le parrain, hein, c'est la fin du Consigliere, le baiser de la mort, tout ce qu'on veut. Vraiment très bien écrit hein, la phrase de Paul Heyman. Je suis pas en train de protéger Brock Lesnar de toi, je suis en train de te protéger de Brock Lesnar, c'est super bien trouvé, la foule a popé à mort, Brock Lesnar il arrive, il défonce tout le monde, j'aurais bien aimé qu'il vende un petit peu quand même le super kick qu'il a pris dans la face par Jay, mais bon, après tout c'est
Brock c'était Lesnar, pas d'actualité là.
Ouais, c'était pas le but de la truc, mais bon, quand même. Voilà, à part ça il a défoncé tout le monde, et le public est maintenant à fond derrière Brock Lesnar.
Ouais, ouais.
C'est un super babyface.
Souplex City.
Non, franchement, là, pour le coup, c'est l'angle parfait. On est super hypé pour Day One. Ça va être un gros match. Voilà, ils ont retourné la table. Là, on a un babyface Brock Lesnar, un méchant Roman Reigns. Le suspense, il fonctionne parce qu'on ne sait pas du tout qui va gagner. Il y a encore Paul Heyman qui est coincé au milieu de tout ça. Non, franchement, rien à redire, c'était juste parfait.
Alors, avant de passer la parole à l'Archange, juste pour vous donner une petite info, le truc a tout pété. Hein. Ça a cassé Internet. Les segments, le segment de la fin a fait plus de 3,5 millions de vues cumulées sur YouTube en moins de 24 heures. Quoi.
Ouais. C'est beaucoup pour un segment YouTube, ça.
Ouais, pour un truc de catch, quoi, en plus, quoi. Donc,
ouais.
Même si c'est la WWE, etc. Mais là, ça a tout pété ce week-end avec Brock Lesnar. Et la tête de la table, donc, comme l'a dit Ringside, ils ont retourné la table. Est-ce qu'ils ont retourné le cerveau, mon GIL?
Oui, carrément. Ils ont carrément réussi ce qu'il venait faire. En plus, ils l'ont construit en plusieurs étapes avec les arrivées de Lesnar, avec les arrivées de Roman Reigns, avec le passage, avec le positionnement de Paul Heyman. Non, c'était génial du début à la fin. La punchline est terrible aussi, hein, effectivement. Hein, je protège pas Brock Lesnar, mais c'est moi qui te protège de Brock Lesnar. C'est incroyable. La foule était, alors on en a parlé dès le début, hein, mais le public ce soir était quand même ultra chaud et ça s'est senti tout le long du truc. Donc moi j'ai adoré, on l'attendait l'arrivée de Brock Lesnar évidemment. Tout a super bien marché. Moi ce que j'ai aimé c'est qu'en plus il nous laisse un peu dans la merde. Il nous laisse un peu sur notre faim parce que Brock Lesnar, ça coupe avant qu'on voit s'il va aller voir Paul Heyman ou s'il y va pas voir Paul Heyman. Et parce que, enfin moi, ça a coupé à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que on avait le Brock Lesnar sautillant, très énervé au milieu du ring, et on avait toute la Bloodline qui se barrait. Et puis je sais pas si vous avez vu s'il était allé relever Paul Heyman ou au contraire s'il l'avait laissé.
Ça s'arrête
avant,
hein.
Voilà, donc du coup il y a encore cet angle là hein, parce que là déjà tout est bouclé pour Day One, on a tous envie de le voir ce truc là et c'est extrêmement bien réalisé en plus de la partie acting. Là on a une construction qui est vraiment un booking qui est hyper bon, et en plus il reste cette petite interrogation, ce qui fait qu'on sait pas, donc il est viré, il a pris un Superman Punch. Est-ce qu'il va finir par retourner vers Brock Lesnar ou au contraire, est-ce qu'il va quand même aller s'excuser vers Roman Reigns? Voilà, il reste encore ce petit truc qui peut encore nous teaser semaine prochaine. Donc, ils ont encore, alors même si c'est déjà enregistré, ils ont encore du mou pour nous sortir encore un truc, quoi. Donc là, à Day One, ce match va être fou, quoi. J'espère que... Alors, il y a peu de risques que ce soit raté hein, entre Roman Reigns et Brock Lesnar. Il y a vraiment... le risque est ultra faible, voire inexistant, mais ils peuvent encore monter d'un petit cran sur ce truc-là, quoi. Donc, c'est super fort.
Ouais, c'est super fort. Ouais, je suis d'accord avec vous. De toute façon, hein, l'impact du segment, de toute manière, se suffisait à lui-même. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Franchement, je ne pensais pas que c'était ce soir. Moi, j'attendais un twist à Day One. Enfin, j'avais envisagé plusieurs scénarios, on va dire. Mais franchement, ce soir, là, dans ce SmackDown, du 17 décembre, non, j'avais pas pensé que Roman allait virer notre ami Paul Heyman. C'était assez énorme, Superman Punch. Paul Heyman, putain. Si on retraçait sa carrière, combien de finishers il a pu prendre de plein de catchers tout au long de sa carrière et tout, c'est incroyable. Et encore à son âge, il prend encore des bumps, quoi. C'est quand même phénoménal, quoi, ce mec, quoi. Il aura dédié sa vie à l'ignoble sport et c'est assez formidable. Et puis bah Brock Lesnar, hein, ce personnage, je sais pas avec vous la semaine dernière là avec ce segment avec Sami Zayn que j'ai trouvé fantastique. Et là, dans ce personnage de Canadien chasseur avec sa houppette et tout, c'est fou, quoi. C'est fou, ce mec se réinvente au fur et à mesure des années. J'ai revu pas mal d'images de lui jeune là, parce que je me suis regardé la saison 2 de Ruthless Aggression. Et il y a en particulier un épisode où on parle beaucoup de la période avec Cena, Batista, etc. et Brock Lesnar. Et vraiment, quand on voit l'évolution du mec, quoi, entre le mec qui est arrivé en grenouillère à la OVW et puis ce qu'il est là, en le 17 décembre 2021, bah c'est quand même ce mec est totalement incroyable. Il restera dans l'histoire, hein, Brock Lesnar. Hein, ça va être pour moi, à mon avis, être dans le top 5 de l'histoire des catchers. Quand il arrêtera, on mesurera à quel point ce mec était hors norme.
Et puis, et puis là, je trouve qu'il ajoute une corde sur cet arc un peu comico, où il est au micro, quoi. Hein. Et puis il y va. Il avait Paul Heyman jusqu'à présent parce que voilà, c'est lui qui lui faisait les promos et puis il disait pas grand chose. On se rend compte que, alors, sous certaines conditions, on en avait un peu parlé dans les reviews précédentes, où faut pas non plus que ça, parce qu'il a une voix qui est un peu aiguë, mais faut que ça reste un peu calme. Mais ça marche, quoi. Ça marche. Et c'est pas évident, hein. C'est pas donné à tout le monde, je pense.
Hein. Et si on doit revenir sur l'histoire de Brock Lesnar, le mec, il a quand même tout fait. Ce qu'on félicite CM Punk à l'heure actuelle d'avoir claqué la porte de la WWE, d'avoir été faire du MMA, de revenir en machin. Brock Lesnar, il avait déjà tout fait ça avant. Et en mieux, quoi. Hein.
Il va carrément en mieux même.
Claquer la porte de Vince McMahon quand il en avait marre. Il a été au Japon, il est devenu champion au Japon. Il a été à l'UFC, il est devenu champion à l'UFC. Il est revenu à la WWE au top. Il est même venu botter le cul de John Cena en veux-tu en voilà. Il prend une catchphrase, Suplex City, c'est reparti sa carrière. Hormis le fait qu'il a été un champion un petit peu absent à une certaine période, c'est bien le seul reproche qu'on peut lui faire. À part ça, il a toujours délivré la marchandise. Et c'est sûrement un des mecs les plus intelligents du business. Hein. Ce Brock Lesnar là, donc effectivement, comme tu le dis, l'histoire lui rendra raison, je pense.
Oh, je le pense bien. Oh, j'en suis convaincu même. Allez, on va voir si l'histoire va nous rendre raison, en tout cas pour la notation de ce Friday Night SmackDown. On va commencer avec l'Archange, ton top. Ton flop est à note.
Alors,
grande réflexion.
Oui, pour cause de micro coupé aussi. Et donc, pour mon top, vu que je suis le premier, je le prends en premier, hein, la fin, à savoir tout le segment là que j'ai trouvé dingue sur la construction en fil rouge en plus qui a eu lieu avec les arrivées, comme je disais, hein, des deux. Et puis, Alors, je dirais pas cliffhanger parce qu'on y, j'ai l'impression qu'ils vont encore nous sortir un truc semaine prochaine. Mais sur déjà là où on reste et puis le fait effectivement qu'on sache pas, il nous reste encore cette interrogation par rapport à Poleman. Voilà. Donc ça c'est mon top. Mon flop, je vais le donner. Je sais pas si vous avez vu pendant la promo de Xavier Wood et de sa couronne. Donc on a noté qu'il y avait effectivement Shinsuke Nakamura et je vais le donner à Shinsuke Nakamura, mais pour toute l'énergie qu'il a développée sur, il chantait comme un fou. Je sais pas si vous l'avez vu et je crois qu'il a plus donné sur ces 15 secondes là que sur les 6 derniers mois en termes d'énergie. Donc ça va être mon flop parce que c'est un sacré feignant. Je tiens quand même à le dire.
Un escroc, ce Nakamura.
Un escroc de la pire espèce. Et puis ma note, on va aller haut, hein, parce que franchement, à part effectivement, il y a quelques matchs dispensables, il y avait toute la partie Ridgeland, ça m'intéresse pas, la partie avec comment ça s'appelle, Madcap Moss, ça m'intéresse pas. Mais pourtant, j'ai réussi. Enfin voilà, pourtant c'est sympa. Le match d'entrée avec les filles était dingue. La partie, moi j'aime bien aussi Naomi, même si c'est mal fait. Je vais mettre un 3-5, voilà. 3-5 parce que je suis resté à la fin, je suis resté scotché quoi. Ah oui, il y a le match des New Day aussi. Donc ouais. 3-5 pour moi.
Ringside.
Ouais, moi je vais donner mon flop à Madcap Moss, Baron Corbin, McIntyre, tout réuni là. Parce qu'effectivement, ça c'était long, c'était pas bon, c'était dispensable complètement. Maintenant, ce show, effectivement, c'était. Train russe, hein, comme on dit. Il y a eu du très mauvais et il y a eu du vraiment excellent. Des trucs qui vont rester dans l'histoire, hein. Je pense que ces segments auxquels je vais donner mon top, le main event, ça c'est un truc dont on se souviendra assez longtemps. Voilà, rien à redire, c'était parfait de bout en bout, aussi bien écrit que mis en scène. Voilà, je suis hyper hypé pour Day One. Et ce gros match qu'on a, une affiche qu'on a déjà vue plusieurs fois, mais ils ont réussi à nous la revendre encore une fois, et je dis chapeau. Et du coup, au niveau de la note, je vais rejoindre Géliel, je vais mettre 3,5. Les hauts tirent vraiment le show vers le haut, alors que le bas, même si c'est mauvais, ça reste anecdotique, et puis ça n'entache pas grand-chose. Et puis surtout, on est parti pour voir la fin de Nakamura, je pense, avec ce Gauntlet match qui est prévu la semaine prochaine. Voilà, donc je suis plutôt optimiste pour la suite, et voilà, et je pense que le main event, c'était quand même un des meilleurs moments de l'année, quoi.
Ouais, c'était un des grands moments de l'année, ouais, je suis assez d'accord avec ça, ouais. C'est compliqué de pas lui donner son top, d'ailleurs, mais j'aurais... Peut-être que s'il n'y avait pas eu ce truc aussi énorme à la fin, là, avec tout ce twist...
Ah bah, il n'y aurait pas eu ça, ça aurait été un SmackDown de merde.
Ouais, j'aurais donné, je pense, une note très faible, en fait. Et même si, pour le coup, j'aurais peut-être donné mon top à l'opener, le tag team des filles, que j'ai trouvé très bon. Et donc, je peux pas ne pas donner mon top au main event, quoi. C'est tellement un truc de fou, quoi. SmackDown pour ça, hein, tout au long de l'année, hein. De toute façon, là-dessus, à SmackDown, les main events sont rarement décevants, il se passe toujours des trucs assez incroyables. Et c'est dans la continuité. Donc le top, les co-main events. Et puis mon flop, pour le coup, j'aurais pu le donner à plusieurs trucs. T'as donné, toi, moi je vais le donner un peu à mon espèce de tristesse, c'est pas ça a fait mal à mon petit cœur l'histoire du Cesaro Sheamus, etc. Est-ce que j'aurais aimé qu'en fait ils se croisent pas à SmackDown ou est-ce que je sais pas ce que j'aurais aimé, mais en tout cas ce que je vois là je l'aime pas.
Tu vois, tonton, on a l'impression que on voit que t'as passé un cap parce que par contre voir Ricochet tout seul en train de danser derrière Xavier Woods, ça te fait plus rien, c'est ça.
J'ai abandonné depuis longtemps, quoi. Même si je vais caresser un espoir discret, tu vois, pendant le 12 Gauntlet match là, en espérant que peut-être il va sortir une perf. Déjà, j'avais eu espoir là dans le match, il y avait eu une Battle Royale là où il avait terminé dans le Final Four et je m'étais dit Ah, et ben non. Mais bon, écoute, je me dis que le titre intercontinental, il est tellement mal tenu que de toute façon, même un Ricochet, même si ça fait chier tout le monde, en tout cas, il y aura peut-être un heureux dans la planète catch, ça sera Tonton, voilà. Mais voilà, cette tristesse un peu sur le 6, en plus pour moi Cesaro et Sheamus ont fait tellement une année folle, Sheamus encore plus quoi, parce que vraiment Sheamus pour moi c'est un des plus énormes catcheurs de l'année 2021. Et voilà, et voir ça avec ce médiocre Ridge Holland, j'ose le mot, c'est un peu tristounet. Voilà, donc voilà. Et ma note, moi je vais être un peu. Vous mettez 3,5, putain, je trouve que 3,5, putain, c'est une note. Je vais rester sur un. Je vais rester sur un 3. Je vais mettre un 3. Franchement, s'il n'y a pas ce finish, je serais curieux de savoir comment on aurait noté ce show. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est comme ça.
Mis 1.
t'aurais mis 1.
Ouais, non, sans le main event, il ne vaut rien du tout l'épisode, en vérité. Mais tout est dans le main event. Et il y a le match Ouzo. Machin qui est...
Et l'opener aussi. Et l'opener,
voilà, tu vois.
Quand même, qui réussit un peu
à relever. Un opener, t'oublies vite, tu vois ce que je veux dire. L'opener fait rarement monter la note.
Ouais, c'est vrai. Bon, bah ok, bah écoute, voilà, en tout cas, c'est comme ça, c'est terminé. Un SmackDown plutôt bien noté, ma foi, quoi. Donc ça reste quand même plutôt pas mal pour terminer cette année. Alors, c'est pas tout à fait terminé. Il va nous en rester quoi? Il va nous en rester 2 des SmackDown, là. Ouais. Le soir de Noël. Ah oh, ouais, mais c'est fou, en fait. Ah oui, c'est le 24 au soir et le 31 au soir. Ah ouais, effectivement, ouais, SmackDown, ça va être... Ah, c'est pour ça, en fait, que j'ai vu que tout était enregistré, là, hein, jusqu'à Day One, tout est enregistré, de toute façon. Raw reste en direct, hein, mais les deux SmackDown, là, sont enregistrés les uns à la suite des autres, quoi, donc... Donc voilà, faites attention aux spoilers, peuple de catch-up. Par contre, ce qui n'est pas un spoiler, c'est ce que je vais vous donner tout de suite, c'est là où il faut trouver catch-up. Rejoignez la communauté catch-up sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Pour les plateformes de podcast, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour ne manquer aucun épisode, rendez-vous sur Apple Podcasts, PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcasts, les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, le site officiel catchup.lepodcast.fr. Je vais pouvoir remercier la triple frite de choc que nous avons représentée pour vous présenter ce Friday Night SmackDown du 17 décembre 2021. Merci beaucoup à toi, mon bon ringside. J'espère que tu vas passer des belles fêtes de Noël.
Bah écoute, pareillement pour toi. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de venir reviewer le show bleu à vos côtés.
Et merci à toi, mon bon Géliel, pour ton analyse pertinente, et puis que tu passes également de belles fêtes avec le millénial qui va se faire plaisir là, un pay-per-view le 1er janvier. Pour lui, l'année commence bien.
Attends, surtout qu'il a déjà commencé à me dire que ce serait quand même pas mal qu'on le voit en direct et que c'est pas si tard, etc., etc. Donc je sais pas comment va falloir que je gère ça. On va voir ça avec lui. En tout cas, merci pour la review, tonton. Merci Ringside également. Passez également de bonnes fêtes, et bonne fête à tout le monde également.
Ouais, bonne fête à tout le monde, bonne fête à tout le peuple de catch-up.
Exactement, ouais, on vous souhaite le meilleur possible, de bien profiter là, de ces vacances, si vous êtes en vacances, de ces vacances de fin d'année, de regarder plein de catch, il y a plein de SmackDown, de Raw, de Dynamite, de Rampage, de Day One, donc, qui arrive. Hein. Je voulais juste glisser un petit mot exprès pour emmerder Ringside. Je voulais juste parler, parce que cette semaine, quand même, il aura fait quand même une grande partie de l'année 2021 à la WWE. Je pense qu'on parlera de lui à l'occasion des awards de fin d'année de catch-up, mais on a un certain dénommé Bryan Danielson qui a affronté un certain Eggman Adam Page pour le titre de la All Elite Wrestling à Winter is Coming. T'as vu ça, mon bon Ringside, ou tu boycottes la All Elite Wrestling?
Non, genre, parce qu'ils ont eu la bonne idée de mettre ça au début, en opener. Donc, c'est bien, c'est que j'ai pas eu besoin de regarder la suite. Gros match d'une heure, hein, avec un grand Daniel Bryan. Je suis pas sûr qu'Hangman Page ait le niveau pour faire un match d'une heure, mais bon, là, c'était à la télé, coupé avec les pubs, etc., etc. Ouais, c'était... voilà, c'était
longue une
belle,
interruption,
belle performance pour les deux, quand même.
Il y a eu une longue interruption suite à la coupure au front là, de Hangman Page. Il y a eu un moment très très long, quoi, en fait, où ils ont un peu tergiversé, à savoir est-ce qu'il fallait le soigner, pas le soigner, etc. Bryan est resté au milieu du ring et a taunté le public pendant je sais pas combien de temps, à faire des exercices de fitness.
Pendant toute la coupure pub.
Ouais, à faire des exercices de fitness, etc.
Non, mais
il a été incroyable, Bryan Danielson.
Ouais, du grand Bryan Danielson.
Ah ouais, du grand Bryan Danielson.
Il fait du bon boulot à la All Elite. C'est vraiment un des points forts de leur émission. Voilà, ça vaut le coup d'œil quand même. Le finish est particulièrement réussi en plus, donc voilà, le dernier quart d'heure, c'est quand même assez exceptionnel.
Match de 60 voilà. minutes, quoi. 60 voilà,
minutes,
60
quoi. Minutes, c'est pas banal. C'est pas banal.
Ouais, non, non. C'est des matchs comme ça, vous n'en voyez pas très souvent. Donc, moi, je vous encourage quand même d'aller faire un petit tour sur ce Winter is Coming. Vous pouvez oublier la dernière demi-heure. Voilà, c'est regardez juste cette heure, juste ce match. Si vous aimez Daniel Bryan, Bryan Danielson, vous pouvez ne pas passer à côté de ça parce que c'est vraiment, moi, j'ai trouvé ça assez fantastique et avec un public de fou et tout. Enfin, bref, tous les éléments étaient réunis, quoi. Et donc, ma foi, c'était un bien beau match AEW World Title Match que ce Adam Page versus Bryan Danielson. Allez, j'arrête les digressions sur la All Elite Wrestling. Ici, c'était la WWE en direct de Chicago, Illinois, USA, avec la team Ketchup. Avec un Géliel qui vous parle en direct du stade d'Indianapolis.
Tout à fait.
Ah, je comprends bien. Et un ringside qui nous parle de la salle de... C'est quoi, c'est les Colts? Ah ouais, le patron, il serait là, il pourrait nous répondre. C'est les Indianapolis Colts. Je sais pas, tu suis un peu le foot américain, mon ringside?
Pas du tout,
d'accord.
Ça m'est arrivé de regarder le Super Bowl, mais là, je t'avoue que je suis complètement à la ramasse.
Eh ben écoute, si tu écoutes un petit peu les reviews de Catch Up, eh ben, sur celle de Raw, on a l'occasion d'en parler un petit peu avec le patron, quoi.
D'ailleurs, bientôt à Catch Up, les reviews de la NFL. Hein.
Alors là, les matchs durent 4 heures. Amuse-toi, faites-vous plaisir. Allez, faites-vous plaisir, peuple de Catch Up, en nous écoutant. J'espère que vous aurez pris du plaisir à écouter cette review de Friday Night SmackDown. On vous laisse là-dessus. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait les cornes à linge plein la face. Salut Géliel.
Salut Tonton.
Salut Rixai.
Ciao Tonton, ciao à tous.
Et salut peuple de catch. Bah voilà, on a fait plus long que le show lui-même.
Performance.
Tant qu'on n'arrive pas à faire plus long que la pub, ça va encore.